Alors, les frères et sœurs de la communauté m'ont demandé de vous raconter quelque chose de mon expérience auprès de Jean-Paul II. Et je le fais volontiers, dans le sens que, et je crois que c'est de notre devoir, de nous qui avons eu la grâce et la chance de le connaître de plus près, de mieux le faire connaître. Je me souviens, le 15 août de l'an 2000, au moment de l'ouverture de la JMJ de Rome, place Saint-Pierre, il y avait un jeune de Guinée-Conakry qui a pris la parole au nom de tous les jeunes qui étaient là pour saluer le pape, et lui a dit « Nous qui sommes là, nous avons l'âge de votre pontificat ». Et parce que, évidemment, la moyenne d'âge de ceux qui étaient là présents avait bien connu le pape, et c'était le seul pape, un peu comme vous, le seul pape qui les a accompagnés et qui leur a indiqué le chemin du Christ. Donc, je vous disais, je le fais volontiers, je pense que c'est de mon devoir de rendre témoignage à ce grand personnage qu'on a eu la chance de connaître et de côtoyer. Et je le fais, si vous voulez, comme on ferait en famille, c'est-à-dire en regardant des photos. Non, quand on a des albums photos, eh bien, on tourne des pages et il y a des photos qui nous rappellent des moments ou des expressions ou des occasions, et c'est un peu particulière. Eh bien, la première photo qui me vient à l'esprit, c'est celle du pape en prière. On a beaucoup dit de Jean-Paul II. On l'a défini comme philosophe, acteur, athlète, poète, théologien, c'est vrai. Mais je pense que la définition la plus exacte de cet homme, c'était un homme de prière. C'était impressionnant de voir comment il pouvait rentrer dans la prière, même quand il était au milieu d'une foule qui hurlait, applaudissait, chantait. C'était comme s'il était tout seul. Après avoir salué les gens, après avoir parlé avec les uns, les autres, caressé les enfants, béni les malades, il se mettait à genoux, et c'est sur un grand podium, lors des voyages par exemple, il se mettait à genoux devant la croix, et on le voyait rentrer dans la prière, et le monde autour de lui n'existait plus. Et je pense que là c'était son secret. Et c'était ce qui lui donnait la force d'avoir cette parole claire et forte devant le monde entier. C'était un peu le charme qu'il avait chez les gens, qui venait, oui, apparemment de sa personnalité, de son look. Mais je crois que la force, ce qui charmait vraiment les gens, c'était cette union profonde avec Dieu. Et quand à Saint-Pierre, il venait pour les liturgies, ou même lors de ce déplacement, en arrivant à la sacristie, il demandait donc qu'est-ce qu'on va faire, comment, pourquoi, etc. Et dès qu'il commençait de s'habiller, de prendre les ornements pour la liturgie, bien, il ne parlait plus et on l'entendait prier tout seul. J'imagine qu'il disait les formules, les petites prières que dans l'ancienne liturgie étaient prescrites pour le prêtre quand il s'habillait pour la messe. Mais donc, il rentrait en dialogue avec le Seigneur, et c'était comme ça, tout seul, et ça continuait, jusqu'au moment où il y avait donc la procession d'entrée, la messe terminée, on revient à la sacristie, il y a toujours une table où il dépose les ornements, donc la table est appuyée au mur, il y a un grand crucifix sur le mur, il déposait ses ornements et il se mettait à genoux, devant la table, comme ça, et il faisait sa prière, les coudes sur la table, la tête entre les mains, il faisait sa prière d'action de grâce, et soit à Saint-Pierre, soit dans le monde entier. Et surtout lors des voyages, il y avait évidemment un programme à respecter autant que possible, parce qu'il y avait les activités qui se multipliaient, et parfois il fallait lui dire, il faut partir, c'est l'heure, hein? Et donc, quand il était en prière comme ça, on s'approchait tout doucement, il disait, il faudrait partir. Hein? Et normalement, pour la réponse était « momento ». Parce que d'abord la prière, il fallait qu'il termine sa prière. Et après, on aurait fait tout le reste. Mais d'abord, c'était la prière. Je me souviens, parmi tant d'autres occasions, à Toronto, par exemple. À la JMJ de Toronto, bon, vous vous rappelez, le dimanche matin, il y avait un orage. Au moment de la messe, donc on est parti de la résidence en hélicoptère, et chaque fois, voilà une autre caractéristique, dans tous ces déplacements, c'était tous des déplacements de prière. C'est-à-dire en avion, en hélicoptère, en bateau, en voiture, etc. C'était soit le chapelet à la main, soit son bréviaire, ou le lectionnaire avec les lectures bibliques de la liturgie du jour. Donc là, il était en train de dire son bréviaire. On a atterri derrière le podium, en hélicoptère. La pluie continuait de tomber. Il y avait le gouverneur de la province qui l'attendait, l'archevêque, etc., qui était au pied de l'hélicoptère. Et lui avait son bréviaire à la main. Eh bien, il a terminé tranquillement son bréviaire, toutes ses dévotions, et après il est descendu. Donc les autres étaient là sous la pluie qui l'attendait. Et c'était sa manière de dire le mot de Jeanne d'Arc, Dieu premier servi. Non, il y a le contact, le rapport avec Dieu d'abord, et puis c'est tout le reste. Chaque vendredi, dans sa chapelle privée, il faisait son chemin de croix. Et donc il s'arrêtait devant chacune des stations, il se mettait à genoux, un petit moment de prière devant chacune des stations. Et après, il recommençait même pendant les voyages, chaque fois le vendredi, dans la chapelle, il y avait toujours son temps de prière pour le chemin de croix. Et les dernières années, quand il ne pouvait plus marcher, c'était difficile pour lui de se déplacer. Et donc, il était à la chapelle sur ce fauteuil. Et il parcourait du regard, si vous voulez, les différentes stations du chemin de croix. Donc, un homme de prière qui nourrissait sa vie, sa journée, par la prière. Lors des audiences au Vatican, quand il recevait soit les évêques, soit les personnalités qui allaient lui rendre visite, le temps entre une visite et l'autre, donc quelqu'un accompagnait l'hôte à la porte, il y avait l'autre qui rentrait, eh bien il avait la main dans la poche et son chapelet, une de « Je vous salue Marie », entre une visite et l'autre. Donc une vie habitée et soutenue par la prière. On peut dire que sa journée commençait dans la chapelle pendant un long temps de prière, et elle terminait encore à la chapelle, tard, le soir, par un autre temps de prière abondant. Chaque fois, dans son appartement, il y a un couloir, il y a les différentes pièces d'un côté et la chapelle de l'autre. Chaque fois qu'il devait se rendre d'une pièce à l'autre, tout au long de la journée, il rentrait à la chapelle, chaque fois. Et il se mettait au fond, sur le dernier banc, un petit moment comme ça de prière, d'adoration, et il repartait. Mais plusieurs fois dans la journée, chaque fois qu'il passait devant la chapelle, donc il y rentrait pour un petit temps d'adoration. Donc voilà la première photo, un homme qui prie. Et je crois que c'est, je le répète, le secret, le vrai secret de Jean-Paul II, cette prière. Deuxième photo, le 20 août de l'an 2000, sur la prairie de Tor Vergata à Rome, la journée mondiale de la jeunesse, il y avait une grande porte qui avait été faite, qui rappelait la porte sainte du jubilé. Et le pape a traversé cette porte, accompagné par 5 jeunes, représentants des 5 continents. Et donc il les tenait de la main comme ça, et il traversait la porte. C'est un peu l'image, si vous voulez, du ministère de Jean-Paul II auprès des jeunes. C'était le pape qui portait les jeunes et qui les introduisait comme ça dans le troisième millénaire. Mais c'était en même temps, c'est lui qui l'a dit, les jeunes qui portaient le pape. Parce qu'il était déjà vieux, malade, et donc c'est eux qui, le tenant de la main, l'accompagnaient à dépasser cette porte. L'image de la pastorale de la jeunesse de Jean-Paul II, donc son intuition et son initiative qui est à l'origine des JMJ, entre autres. Vous savez que c'est lui qui a pensé à offrir aux jeunes cette possibilité. Pourquoi? Si on lit son livre, son premier livre, Entrée dans l'espérance, dans le chapitre où il parle des jeunes, il dit « C'est depuis que j'étais jeune prêtre » que j'ai compris l'importance de la jeunesse dans l'histoire de la personne humaine. Car la jeunesse n'est pas simplement le temps de passage entre l'adolescence et l'âge adulte, mais c'est le temps des grands choix. C'est le temps où l'on met les fondations. Et donc je me suis dit, l'Église ne peut pas être absente dans cette étape de l'histoire de la personne humaine. Et c'est là que j'ai compris la beauté de la pastorale des jeunes, il écrit. Donc il a inventé les JMJ, entre autres, en disant, on veut offrir aux jeunes un temps de formation, la JMJ n'étant pas la kermesse de la jeunesse catholique, bien entendu, n'est pas non plus la bonne occasion pour se marier ou pour trouver le copain ou la copine de sa vie, même si cela arrive. C'est un temps de formation qui est offert à tous les jeunes qui veulent participer. Avec trois contenus fondamentaux. C'est l'annonce du Christ. Vous avez participé peut-être une ou l'autre des JMJ. Vous avez vu donc qu'il y a premier contenu, c'est l'annonce du Christ. Donc les catéchèses, les liturgies, la célébration des sacrements. Le deuxième, c'est la dimension ecclésiale. On découvre qu'il n'y a pas que notre paroisse, notre aumônerie, notre communauté. Il y a d'autres personnes qui essayent de suivre l'évangile comme nous, même s'ils ont des parcours différents. Et donc il y a cette découverte de l'internationalité, de l'universalité de l'Église. Et on fait cet exercice d'ouverture d'esprit et de cœur. Et la troisième dimension, c'est la dimension missionnaire. Le pape achevait toujours une journée mondiale en disant « Maintenant, devenez les évangélisateurs des autres jeunes. Ce que vous avez vécu, ce que vous avez découvert, expérimenté ici, eh bien, il faut l'annoncer, il faut le transmettre. » Temps de formation dans lequel on offre aux jeunes la possibilité d'approfondir leur foi et de renouveler leur engagement. Jean-Paul II a dit plusieurs fois, je suis un ami des jeunes, mais je suis un ami exigeant. Et d'ailleurs, vous vous rappelez les propos qu'il tenait au niveau de la vie chrétienne, de la prière, de l'attitude morale, de l'engagement. C'était toujours des discours très forts, qui demandaient beaucoup. N'ayez pas peur de voler haut. Ou bien Saint-Jacques de Compostelle, l'appel qu'il a répété après, au cours de l'an 2000, « N'ayez pas peur d'être les saints du nouveau millénaire. Notre monde a besoin de saints. Et c'est les jeunes d'aujourd'hui qui peuvent être les saints. » Et il écrit dans son texte qui préparait le grand jubilé de l'an 2000, « Si les jeunes ont la chance de rencontrer le Christ, eux qui seront les adultes du nouveau millénaire, eh bien ils auront la tâche de transporter l'évangile de ce millénaire qui se termine dans le millénaire qui commence. Les jeunes qui doivent faire le pont en transportant l'évangile d'un millénaire à l'autre. Et pourquoi il a eu tant de succès auprès de la jeunesse? Je pense parce que les jeunes ont compris que le pape n'avait pas de produits à leur vendre. C'était pas des clients. Il n'avait pas des clients possibles devant lui. Et vous voyez que souvent, la jeunesse est considérée comme un client potentiel. Donc il y a des chaussures Nike à acheter, il y a des jeans, il y a des t-shirts, etc. Et vous voyez que, je ne parle pas de vous évidemment, mais les jeunes sont tous habillés de la même manière parce que c'est des clients. Ils sont bombardés continuellement par une certaine idée, un certain modèle. Mais le pape n'avait pas de clients devant lui. Il avait des personnes. Et donc il leur disait chaque fois, tu le peux. Et donc je te propose. Je te demande quelque chose, difficile, mais je sais que tu peux le faire. Et je crois que c'est là un peu le succès qu'il a eu. Parce que les jeunes se sont sentis, défiés, si vous voulez. C'était un défi qu'il leur lançait. Mais en même temps, c'était un geste de confiance et d'amitié. Deuxième photo. Troisième photo, le pape qui descend de l'avion et qui se met à genoux et qui embrasse la terre. Le voyage du pape. 103 voyages internationaux pendant 26 ans et demi de pontificat. Ce qui fait 3,5 fois la distance entre la terre et la lune. Et 49 fois le tour du monde en kilomètres. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'idée. Quand il était archevêque de Cracovie, le pape Paul VI l'avait invité prêcher la retraite de Carême à la Curie romaine, c'est-à-dire aux collaborateurs du pape. Chaque année, la première semaine du Carême est dédiée à une retraite spirituelle au Vatican. Et bon, le cardinal Wojtyła, en prêchant la retraite, parlait de la visite que l'évêque fait dans son diocèse aux différentes paroisses. Et il disait, moi quand je me rends en visite pastorale dans les paroisses, eh bien je fais un pèlerinage au sanctuaire du peuple de Dieu. C'est-à-dire je vais en pèlerin voir le peuple de Dieu qui vit, qui célèbre sa foi, qui témoigne de sa foi. Une fois qu'il est devenu pape, évêque de Rome, donc il a voulu répéter cette attitude pastorale au niveau mondial. Et donc il se rendait voir l'Église. Ce n'était pas des voyages de tourisme qu'il faisait. On n'avait aucun intérêt de voir les paysages, même s'il aimait beaucoup la nature, hein, entre parenthèses, dans le couloir de chez lui, là, je vous disais, il aimait beaucoup la montagne et la nature. Donc les photos, les livres, vous savez, les livres de photos. Et les gens le savaient, donc on lui envoyait chaque publication arrivée chez le pape. Mais il n'avait pas le temps de les voir. Alors, dans ce couloir, il y avait un meuble sur lequel son secrétaire déposait toujours un de ses livres. Alors, en passant, pour se rendre d'une pièce à l'autre, le pape feuilletait une ou deux pages, comme ça, en regardant deux photos, et après il partait. Et en revenant, c'était deux autres photos, encore, comme ça. De manière que, le temps d'une semaine, une dizaine de jours, il avait regardé tout le livre, et donc il le fermait. Quand le livre était fermé, son secrétaire comprenait qu'il avait tout, donc il le remplaçait avec un autre. Donc, mais je vous disais, il aimait la nature, il aimait les belles choses, mais ce n'était pas le but de ses voyages. Les voyages, il faisait ses voyages pour aller voir en pèlerin le peuple de Dieu. Et je vous l'ai dit, tous les déplacements, c'était des déplacements faits dans la prière. Et il y avait souvent, selon le protocole, c'était l'évêque du lieu qui accompagnait le pape dans ses déplacements. Alors, vous savez, les évêques disent, bon, c'est la bonne occasion dont je peux parler au pape, je peux lui demander ça, ça et ça. Et dès qu'il rentrait dans la voiture, il sortait son chapelet, il commençait de prier, l'autre, et l'autre était déçu. Attitude de pèlerinage, donc, dans ses voyages où il allait confirmer et soutenir la foi de ses frères. Il a dit un jour, si le pape, en voyageant, va confirmer ses frères, et c'est le ministère de Pierre, Jésus lui a dit, confirme tes frères, mais il va aussi pour recevoir l'encouragement et l'exemple de la foi des églises locales. Donc il y a cet échange. Le pape qui va porter la confirmation et l'encouragement, mais il est encouragé. D'autre part, c'est les églises locales que par leur vie chrétienne encouragent le pape dans l'accomplissement de son ministère. C'est vrai que du point de vue des médias ou de ceux qui accompagnaient le pape, chaque voyage était à peu près le même, si l'on veut. Mais pour ceux qui reçoivent le pape, c'était une occasion historique. Je rappelais, avant-hier, l'histoire de Rodrigue, la petite île de Rodrigue, où je vous ai dit les gens qui se sont sentis reconnus et placés au cœur de l'Église. Lors du voyage en Scandinavie, vous savez, dans les 5 pays de Scandinavie, les catholiques sont 2% des habitants. Et la plupart de ces 2%, ce n'est pas des gens de Scandinavie. C'est plutôt des Chiliens, des Polonais, et des Indonésiens. Donc c'est une communauté, c'est vraiment la diaspora. Hein? Donc le pape qui se rend chez eux et qui leur dit, même si vous êtes très peu nombreux, vous n'êtes pas moins important de ceux qui sont des millions et des millions. Et donc vous avez une place spécifique dans le cœur de l'Église et vous avez une place dans le ministère du pape. Donc ce ministère d'encouragement et de soutien. Fait par des grandes liturgies, par des enseignements, mais aussi par des gestes d'humanité. Je veux dire, souvent, les gens retiennent pas tellement les grands discours, mais les gestes. On aura oublié facilement, je pense à tel pays ou tel autre, les gens auront facilement oublié le message du pape, le grand discours qu'il a fait lors de la célébration eucharistique ou de la rencontre avec les universitaires, je ne sais pas qui. Mais ils n'oublieront jamais les gestes par lesquels le pape manifestait son attitude. La caresse à un enfant, quand il était ici en France, il y a, c'est quoi, c'est 98, je pense, 17 pour les GMJ, mais à Tours, 16, voilà. Donc quand il a eu la rencontre avec ce qu'on appelle les blessés de la vie, donc l'image du bon samaritain. Ou quand il a embrassé un malade du sida à San Francisco, je veux dire, des photos, des images qui restent dans les yeux et dans le cœur des gens et qui disent quelle était l'attitude pastorale, paternelle de cet homme. Donc, il a su aussi choisir des gestes, vous vous rappelez, et quand il faisait des grimaces ou quand il rigolait, etc. Il a su utiliser des gestes pour faire passer un message. Et il a, comme ça, manifesté la proximité. Donc, le pape n'est plus le chef de l'Église qui est là en haut sur son trône et qu'on voit à la télé, mais c'est quelqu'un qui a des sentiments en plus. Et qui est capable de se rendre proche de ceux qui souffrent, de ceux qui espèrent. Il a dansé avec les jeunes, vous vous rappelez? Non, vous vous rappelez pas le Parc des Princes en 82, je pense. L'athlète de Dieu, non, on l'appelait l'athlète de Dieu. Donc il a su trouver les bons gestes pour transmettre un message. Donc le pape qui voyage. Autre photo. L'humanité de ce pape. En septembre 1995, c'était au moment de la guerre en ex-Yougoslavie. Et donc en Bosnie spécialement, à Sarajevo, les gens s'entretuaient et il n'y avait pas de solution. Donc il y a eu à Lorette, l'Italie centrale, une rencontre des jeunes de l'Europe à l'occasion du 7e centenaire du sanctuaire. Et il y a eu 350 000 participants. Et le samedi soir, une veillée, il y avait des contacts télévisés avec 5 grandes villes en Europe. Le dernier, c'était Sarajevo. Et il y avait donc Sarajevo sous les bombes. Il y avait un groupe de jeunes qui s'étaient rassemblés dans un studio télévisé, souterrain, donc sous les bombes. Et ces jeunes-là ont témoigné de leur situation, en disant comment c'était difficile essayer de vivre la réconciliation dans une situation de haine, de race, de différence de race, de tension, etc. Vous connaissez un peu l'histoire. Et le pape qui suivait donc sur le grand écran ce témoignage, il était très ému et il y a eu une larme dans ses yeux. Et le lendemain, les journaux, dans les grands journaux, disait « Les larmes de Wojtyła pour Sarajevo ». On n'avait jamais vu un pape qui était homme en même temps. Et donc, il dit depuis la fenêtre de son appartement, le dimanche, après la prière de l'Angélus, « Cet après-midi, je me rends à l'hôpital parce que je dois passer des examens médicaux. » vous savez qu'il a été hospitalisé 9 fois au Gemelli, tout le long de son pontificat. Et une fois, il dit, vous savez qu'il y a le Vatican numéro 1, donc c'est le Vatican. Le Vatican numéro 2, c'est les villas de Castel Gandolfo, donc c'est à l'extérieur de Rome, où le pape se rend normalement en été. Et après, il y a le Vatican numéro 3, c'est l'hôpital Gemelli, là où le pape vient séjourner de temps en temps. Alors, cette humanité qui a été rendue manifeste par ses attitudes. Donc, c'est un homme qui a des sentiments, c'est un homme qui a un corps, et donc il doit être soigné. À Denver, 93, lors de la journée des jeunes, quand le pape arrive, il y a la cérémonie d'accueil dans un grand stade, et en montant sur le podium, le pape s'arrête et il regarde longuement donc cette foule de jeunes qui chantent, qui applaudit. Et les grands écrans retransmettent le gros plan de la tête du pape et on le voit très très ému. Et le lendemain, dans un journal de Denver, il y avait un témoignage d'un jeune américain qui disait « Michael Jackson n'a jamais pleuré pour moi ». C'est peut-être une boutade si vous voulez, mais ça dit beaucoup. Donc ce jeune a senti qu'il était important pour le pape. Il n'était pas important pour Michael Jackson. Autre photo. Le pape avec son bâton, vous vous rappelez. Les dernières années de sa vie, donc la maladie de Parkinson, les plusieurs accidents, il s'était cassé le col du fémur. Il avait du mal à marcher. Et donc, peu à peu, lui qui était l'athlète de Dieu, qui était celui qui grimpait à la montagne, qui faisait du ski, etc., il a dû s'appuyer un petit bâton. Et je pense que ça n'a pas dû être facile pour lui. Ça a été tout un processus, je pense, d'acceptation de cette limite physique et même de conversion intérieure. Imaginez-vous que les premiers temps, quand il était obligé d'utiliser un bâton, il refusait de se présenter en public avec le bâton. Donc il l'utilisait en privé. Et quand il y avait les audiences, par exemple à la salle des audiences au Vatican, il arrivait juste derrière la porte, il déposait son bâton et il rentrait un peu en boitant, mais autonome. Peu à peu, cela n'a plus été possible. Donc, il a dû se présenter en public avec son bâton. À Manille, janvier 95, sur le podium, avec son bâton, etc., les jeunes qui chantaient, etc. Donc, il a pris le bâton, il a commencé de le faire tourner comme ça, à la Charlie Chaplin, non? Et c'était une manière d'exorciser, si vous voulez, non? Mais après, cela n'était plus, ça ne suffisait plus, donc il ne pouvait plus marcher. Et donc, au Vatican, on a dû inventer, je ne sais même pas comment on peut définir ça. Et il y a eu plusieurs étapes. Le bâton d'abord. Après, il y avait une, comment ça s'appelle ça? Et donc, le pape debout, il s'appuyait, il y avait des gens qui poussaient. Et finalement, un fauteuil roulant qui était un peu transformé, etc. Mais c'était un fauteuil roulant. Donc, il y a eu toute une progression dans la souffrance et dans l'immobilité. Parce que la maladie de Parkinson, vous savez, immobilise les malades. Peu à peu, il a accepté tout cela et il n'a pas eu honte de se présenter en public. Et donc, de présenter donc ce corps qui était en train de se défaire. Vous vous rappelez sûrement toutes les considérations qui ont été faites. Le pape devrait renoncer. Comment peut-il gérer ou gouverner l'Église dans une telle situation? Il vaut mieux laisser la place, etc. Comme si l'Église était une entreprise. Et comme si le PDG, comme si le pape était le PDG d'une grande entreprise. Il y a eu tout un message qui est passé. Et qui disait que la vie, ça vaut la peine de la vivre jusqu'au bout, même quand elle n'a plus toutes les caractéristiques d'autonomie, de beauté, de bonne santé qui sont souhaitables. Alors il n'y a pas simplement une efficacité technique au niveau du travail, il y a peut-être une autre efficacité, une fécondité qui sont plus secrètes, mais pas pour cela moins importantes. Et donc il a dit plusieurs fois, je veux aller jusqu'au bout, tant que le Seigneur me le permettra. Et donc on a vu, nous qui étions là, on a vu une acceptation graduelle chez lui de cette dimension de la souffrance et de la maladie. Et je réfléchissais, vous savez, le pape a fait un peu comme caractéristique de son pontificat, les gestes et les paroles. J'ai parlé des gestes, les paroles, les grands discours, les grands messages. Peu à peu, le Seigneur lui a enlevé la possibilité de faire des gestes et à la fin, même de dire des paroles. Mystère de la vie. Ou mystère de la sagesse de Dieu. Donc c'est impressionnant, c'est quelque chose qui me touche toujours beaucoup chaque fois que j'en parle, quand j'y pense, de voir comment le Seigneur lui a pris ce qui étaient les grandes caractéristiques de tout son service pontifical. La capacité de faire des gestes. Les dernières années, son expression, enfin il n'avait plus d'expression. C'était figé, c'était bloqué parce que les muscles se raidissaient. Il lui a enlevé la capacité de faire des gestes et puis la capacité de parler. Et donc il est mort en silence, sans pouvoir parler. Le dimanche de Pâques de 2005, la dernière apparition à la fenêtre, et le mercredi suivant. Donc il n'a pas pu parler, il s'est présenté, il a salué les gens comme ça, et il n'a pas pu parler, après qu'il avait eu la trachéotomie. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela demeure un mystère. Mais je disais, je crois qu'il y a une fécondité profonde, même dans la souffrance et dans l'immobilité, et dans une efficacité qu'on n'arrive pas à voir extérieurement. Jusqu'au moment de sa mort, où tout le monde a vu combien cet homme avait marqué son époque. 3 millions de personnes qui ont défilé devant le corps du pape à Saint-Pierre, la basilique Saint-Pierre, jour et nuit, sans arrêt, en faisant parfois même plus de 15 heures d'attente pour passer devant le pape, une minute, même pas. Dans une ambiance de prière et de paix qui était impressionnante. Et vous savez comment le monde entier a été frappé par ce témoignage. Et vraiment, Rome, tout autour du Vatican, tout était bloqué, jour et nuit. On fermait la basilique pendant 2 heures, vers 2 heures du matin, pour permettre aux médecins d'entretenir le corps du pape, et après on recommençait les visites sans arrêt, jour et nuit. Donc cette dimension de la souffrance, qui n'est pas à la mode aujourd'hui, et qu'on veut cacher, vous voyez que la télé nous présente les athlètes et les top models, mais elle ne nous présente pas des gens qui souffrent. Hein. Alors c'est un peu le choc ou la contradiction, pierre d'échoppement. Le disciple n'est pas différent de son maître. Et le pape nous a manifesté donc cette vitalité cachée, et pas moins utile ou moins féconde que celle de la... qu'il manifestait quand il était en bonne forme. C'est peut-être une boutade, si vous voulez, mais ça dit beaucoup. Donc ce jeune a senti qu'il était important pour le pape. Il n'était pas important pour Michael Jackson. Il y aurait plein de choses encore à dire de Jean-Paul II, évidemment. Vous savez, toute une vie aussi riche et aussi profonde laisse quand même des traces. Et chacun de ceux qui ont eu la possibilité de le côtoyer, soit de près, soit de loin, garde sûrement des souvenirs ou des comme des flèches. Ce que je tiens à répéter, à souligner, c'est donc ces deux caractéristiques de fond, à mon avis. C'est cette... unité personnelle avec le Seigneur, nourrie par la prière, par la réflexion, par la méditation, par le sacrifice, et cette humanité. C'était un homme qui avait des sentiments. C'était un homme qui exprimait ce qu'il sentait à l'intérieur. Un exemple banal, si vous voulez. Vous savez qu'en Afrique, au lieu d'applaudir, normalement, on hurle, surtout les femmes. Vrai ou non ? Surtout nos amies africaines. À part là. Non, elles ont une manière de glisser la langue entre les dents et de hurler, donc que nous, on ne sait pas faire. Bon. On était en Tanzanie. Le pape arrive à la sacristie pour prendre les ornements pour la célébration. Il y avait deux religieuses qui avaient organisé la sacristie et qui, en arrivant, quand le pape arrive, descend de la pape mobile, elles étaient très, très émues, donc elles voulaient manifester leur joie. Elles ont commencé à hurler comme ça, non, pour dire, bienvenue. Donc le pape s'arrêtait, les a regardées un peu, puis elle a fait un petit signe de croix sur le front, et il rentre à la sacristie, dans la salle qui était aménagée en sacristie, et il va tout seul vers la table que je vous parlais, là où il y avait les ornements, et derrière lui, nous étions à deux, simplement à deux, et lui, tout seul essayer de répéter ce que les sœurs avaient fait. Non ? Certains moments, quand il approche de la table, il se tourne et il dit « Vous n'avez pas appris, je vais vous apprendre maintenant comment ça marche. » Ou d'une autre occasion, quand il y avait, lors d'un autre voyage, il y avait des confirmations. Donc il y avait 100 jeunes à confirmer. Et on lui a dit on a pensé que le pape et 4 autres évêques pourraient confirmer. Donc il y a une vingtaine de jeunes chacun pour ne pas trop prolonger la liturgie. Oui. Vous dites que ce n'est pas pour prolonger la liturgie ou parce que vous pensez que le pape est trop âgé. Etc. Il y aurait plein d'anecdotes comme ça à raconter et qui seront sûrement enregistrées quelque part. On avait peut-être un peu l'idée de la sacralité de la personne du pape. Donc voilà, le grand pontife qui fait des grandes liturgies, des grands discours, mais tellement éloigné des gens communs. Donc il était une personnalité extraordinaire. Lui, il nous a montré que le pape est un homme, comme tous les autres, qui a reçu un ministère qui le dépasse, et qui est plus grand que lui, mais qui doit le porter. Et donc, il le porte selon ses possibilités, selon ses capacités. Alors, on fait actuellement la comparaison. Ah, mais Jean-Paul II, c'était pas comme ça. Benoît XVI ne fait pas ce que faisait Jean-Paul II. Moi, je dis, heureusement. Imaginez-vous comment serait triste le monde si nous étions tous pareils. S'il n'y avait pas de différence entre nous. Donc chaque pape apporte sa personnalité, et sa formation, sa culture, sa sensibilité au ministère qui lui est confié. Et il exerce ce ministère selon ses propres caractéristiques. Alors je crois que Jean-Paul II nous laisse comme témoignage et comme héritage la beauté de cette humanité. Donc il nous a dit toujours, il est beau d'être homme, d'être femme. Et il est beau de vivre dans notre monde, même avec les problèmes et les contradictions qu'il y a. Et la beauté de cette vie est plus complète et plus belle quand elle est soutenue par un dialogue profond, personnel, sérieux avec Dieu. Je crois que c'est son message et son héritage. Ben, c'est à nous, c'est à vous tout spécialement, hein? C'est à vous qui êtes en train de mettre les fondations pour votre vie, et c'est à vous d'être les gardiens de cet héritage. Si vous êtes vraiment la génération Jean-Paul II, être la génération Jean-Paul II ne signifie pas vivre de souvenirs, et même pas de feuilleter l'album de photos. Hein? Être la génération Jean-Paul II signifie mettre en pratique l'enseignement qu'il nous a livré. Alors, bonne chance.